Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire, consacré à la musique, à ceux qui la font vivre et à ceux qui, siècle après siècle, continuent de faire résonner les murs des églises et des cathédrales. Alors aujourd'hui, je vous propose de voyager assez loin, géographiquement, historiquement et musicalement. Nous allons partir de la Norvège avec Ola Yello, compositeur aujourd'hui incontournable de la musique chorale contemporaine. Nous allons ensuite passer inévitablement par l'Angleterre avec David Briggs et cette extraordinaire tradition des chœurs des collèges et des cathédrales britanniques. Nous allons ensuite revenir en France, plus près de chez nous, avec Pierre Villette, compositeur très discret, mais dont l'écriture chorale possède une identité absolument remarquable, vous allez l'entendre. Et nous allons terminer avec l'un des grands noms de la musique française actuelle, contemporaine, donc Thierry Esquèche. Quatre œuvres sacrées aujourd'hui, quatre manières très différentes de faire sonner la voix humaine, vous allez l'entendre. Et pour commencer, voici une musique qui semble presque venir d'un autre monde. Alors, je vais vous parler un petit peu du compositeur Ola Yello, qui est un compositeur norvégien, né en 1978, il n'est pas très vieux. Il est pianiste autant que compositeur, il a étudié en Norvège, avant de poursuivre sa formation à la Juilliard School de New York, puis au Royal College of Music de Londres. Sa musique est très intéressante parce que elle se situe à la frontière de plusieurs univers. Elle vient naturellement de la tradition classique, bien sûr, mais également beaucoup de jazz, de musique de film, d'improvisation, et une certaine esthétique minimaliste qui là est assez propre d'ailleurs des compositeurs nordiques. Alors, Yello d'ailleurs se revendique notamment de l'influence de compositeurs de cinéma comme Thomas Newman, mais également de musiciens de jazz comme Keith Jarrett ou Pat Metheny, et cela s'entend. Chez lui, la musique chorale n'est pas nécessairement pensée comme une succession de développements thématiques très complexes. Elle fonctionne souvent par nappes sonores, des superpositions, par déplacements harmoniques extrêmement progressifs. Et vous allez entendre l'Agnus Dei que je vais vous faire découvrir là, il fonctionne tout à fait comme ça. Mais alors attention, parce que simplicité apparente ne signifie absolument pas simplicité d'écriture. Et c'est ce qu'on va entendre dans ce morceau. Alors, cet Agnus Dei se déploie en trois mouvements, tous très différents. Et c'est notamment dans le deuxième, le Christe, que l'écriture devient particulièrement riche sur le plan harmonique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le mot Christe porte en lui une densité théologique particulière. Il ne s'agit pas simplement d'un nom propre, le Christ est celui qui est à la fois Dieu et homme, et Yello semble traduire musicalement cette dualité par une écriture qui se densifie, qui devient un petit peu plus mouvante, plus mystérieuse, presque plus humaine, avant de retrouver une forme d'apaisement. Et c'est là que je lis aussi cette musique avec d'autres qu'a pu faire Ola Yello, parce qu'il y a chez lui une fascination pour les paysages nordiques, et on comprend immédiatement pourquoi son œuvre Northern Lights, consacrée aux aurores boréales, est devenue emblématique de son univers. Alors pourquoi je vous parle de cette autre œuvre? Tout simplement parce que on retrouve une forme un petit peu de fraternité dans la musique de Ola Yello et toutes ses inspirations, le nord, l'infini, l'espace, évidemment nourrit toute cette musique. Alors on a effectivement une impression ici dans cette Agnus Dei d'une lumière qui apparaît dans l'obscurité. Vous allez entendre les harmonies qui se déplacent lentement, les voix qui semblent se fondre les unes dans les autres et progressivement quelque chose se met à apparaître. Comme une lumière polaire, finalement, dans un ciel nocturne. Nous allons ici entendre le Choir of Royal Holloway sous la direction de leur chef, Rupert Goethe.
Thank you.
Après cette œuvre magistrale, je vous propose de rester dans la musique chorale contemporaine, mais nous allons changer complètement de paysage, direction l'Angleterre. Alors il existe, comme vous le savez certainement, en Grande-Bretagne une tradition chorale absolument exceptionnelle, et elle repose notamment sur une institution que nous connaissons beaucoup moins en France, le chœur de collège universitaire. Alors dans les universités de Oxford et de Cambridge, également dans d'autres universités, mais ce sont les deux plus représentatives, vous avez des chœurs qui sont composés essentiellement d'étudiants et qui chantent quotidiennement dans les chapelles des collèges. Cette pratique produit quelque chose de très particulier, une tradition musicale extrêmement ancienne, mais renouvelée en permanence par de jeunes chanteurs. Et cette tradition est intimement liée aux organistes. Les organistes des cathédrales et des collèges britanniques ne sont pas seulement des interprètes, ils sont aussi très souvent compositeurs, improvisateurs, chefs de chœur et compositeurs, et David Briggs est de ceux-là. Alors il est né en 1962, il devient enfant choriste à la cathédrale de Birmingham avant d'étudier l'orgue à King's College, Cambridge, et il occupe ensuite plusieurs postes dans des cathédrales anglaises, notamment Hereford, Truro et Gloucester, avant de poursuivre une carrière internationale d'organiste de concert. Il est également un superbe improvisateur, particulièrement reconnu, et un compositeur prolifique, rien que ça. Et sa musique, que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, est justement située à la rencontre de ces deux traditions. D'un côté, la tradition chorale anglaise, la clarté des lignes vocales, la beauté du timbre, la précision du texte. Et de l'autre, l'école française de l'orgue et de l'improvisation, dont Briggs est un grand admirateur du Pré, du Rufflet. L'anglais Messiaen font partie de ses inspirations et lui-même est venu étudier en France. Et effectivement, quand on voit cette rencontre entre France et Angleterre, on se rend compte que d'un point de vue musical, c'est extrêmement fécond. Alors l'œuvre que nous allons entendre s'appelle « God be in my head ». C'est une courte prière, presque une petite miniature, mais elle possède cette qualité si particulière de la musique chorale britannique, c'est-à-dire une grande simplicité apparente qui permet au texte de prendre toute sa place. Et pour l'interpréter, nous allons entendre le chœur du Trinity College de Cambridge, avec à sa tête Stephen Layton. Stephen Layton, c'est lui-même une figure majeure de la musique chorale britannique contemporaine, c'est l'ancien organe scolaire de King's College de Cambridge, lui aussi, fondateur de Polyphony et directeur artistique des Host Singers. Rien que ça, on va les entendre tout à l'heure dans l'autre extrait qui va suivre d'ailleurs. Et il a profondément marqué l'interprétation chorale britannique de ces dernières décennies. Et il a notamment dirigé le chœur du Trinity College de Cambridge avant de quitter son poste très récemment en 2023. C'est donc ici une véritable rencontre entre deux générations de musiciens issus de la même grande tradition. Je vous laisse donc découvrir cette incroyable God be in my head de David Briggs.
Thank you.
après cette merveille, cette petite pépite anglaise, nous allons maintenant revenir en France, et même si le nom de Pierre Villette est beaucoup moins célèbre que ceux de Poulenc, Duruflet ou Messiaen dont je vous parle assez régulièrement, il mérite vraiment que l'on s'arrête sur sa musique. Pierre Villette, né en 1926 à Duclair, en Normandie, dans une famille de musiciens, et il chante enfant à la maîtrise de la cathédrale de Rouen, puis il étudie au conservatoire de Paris, notamment avec Henri Bussert. Et il travaille également avec Maurice Duruflet et côtoie au conservatoire un certain Pierre Boulez. Donc de belles paternités dans la musique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et finalement, il va y avoir une trajectoire qui va être très différente entre ces deux grands messieurs de la musique, Pierre Boulez et Pierre Villette. Ils vont avoir effectivement quelque chose de très différent. Boulez, de son côté, va devenir l'une des grandes figures de l'avant-garde européenne. Et Villette, lui, va rester profondément attaché à la tradition musicale française, à la musique religieuse et à une écriture beaucoup plus liée à la couleur et au chant. Alors il obtient en 1949 le second Grand Prix de Rome, ce qui est quand même pas rien, puis dirige successivement les conservatoires de Besançon et d'Aix en Provence. Sa musique est très nourrie par l'école française, je vous le disais, notamment Fauré, Debussy, Poulenc et Messiaen, mais également par le chant grégorien et une forte tradition liturgique. Et cette œuvre que nous allons entendre, O Salutaris Hostia, est un très bel exemple de cette écriture presque de synthèse, si j'ose dire. Mais avant de vous parler de Villette, arrêtons-nous un instant, sur le texte. O Salutaris Hostia, c'est l'un des grands textes charistiques de la tradition latine. Il provient de l'hymne Verbum Supernum Proliens, composé par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle pour la liturgie de la fête Dieu. Les deux dernières strophes de cet hymne ont progressivement constitué une hymne autonome, utilisée notamment dans le cadre de l'adoration du Saint-Sacrement. Et c'est un texte qui, comme souvent avec saint Thomas, comme les textes sont inspirés, ces mêmes textes ont inspiré les compositeurs. Alors, on pourrait citer pêle-mêle Byrd, Charpentier, Rossini, Schumann, mais aussi en France, toute une tradition de motets eucharistiques. Et ce qui est fascinant avec ce motet, c'est que chacun va trouver une manière différente de traduire ce texte. Et chez Villette, on y revient, nous retrouvons quelque chose de profondément français. Il y a d'abord cette importance donnée à la couleur harmonique. Les accords ne sont pas simplement là pour accompagner une mélodie, ils créent une atmosphère. Alors évidemment, on pense à Fauré, mais on entend aussi quelque chose, et là c'est beaucoup plus prégnant, quelque chose de Poulenc, cette manière de faire alterner une grande simplicité mélodique, il y a là aussi beaucoup de génie, et des harmonies qui parfois sont beaucoup plus surprenantes, avec une forme, j'ose le dire, de sensualité, même si c'est une musique qui ne cherche pas à être spectaculaire, en fait elle cherche tout simplement à être belle, et c'est peut-être justement ça qui la rend si touchante. Voici donc le O Salutaris Hostia de Pierre Villette, interprété, je vous en parlais tout à l'heure, par les Holst Singers, sous la direction, encore une fois, de Stephen Layton.
Oh.
Et c'est avec cet accord stellaire que se termine ce O Salutaris Ostia de Pierre Villette, un compositeur qui est effectivement méconnu mais qui mérite d'être mis en avant, notamment dans nos églises et nos cathédrales, une musique magique. Et pour terminer cette émission, nous allons faire un dernier pas vers la musique contemporaine française avec Thierry Esquèche. Bon, je le présente même si je le devrais pas, compositeur, organiste, improvisateur, professeur au Conservatoire de Paris, membre de l'Académie des Beaux-Arts et depuis 2024 titulaire des grandes orgues Notre-Dame de Paris. Thierry Esquèche est aujourd'hui l'une des figures majeures et incontournables de la musique française, avec un langage qui lui est propre, immédiatement reconnaissable. Il y a chez lui, je trouve, une énergie rythmique considérable, une écriture très dense, mais aussi un rapport très fort à la musique ancienne et notamment au chant grégorien. Et c'est particulièrement évident dans sa messe romane. C'est une œuvre qui date de 2014. Elle a été commandée par la Fédération Nationale des Pueri Cantores à l'occasion du 39e congrès des Pueri Cantores et créée le 12 juillet 2014 à Notre-Dame de Paris. Alors elle a été écrite pour deux chœurs et orgue et comprend quatre parties, Kyrie, Gloria, Sanctus et Agnus Dei. Et Esquèche l'a construit comme une grande paraphrase de réminiscence grégorienne avec un orgue qui n'est pas simplement là pour accompagner les chœurs, il devient véritablement leur prolongement. En fait, il le complète, on est vraiment dans cette tradition française, on parlait de Duruflé tout à l'heure, on est vraiment dans cette veine-là. Et le Sanctus, vous le savez, c'est l'un des moments les plus solennels de la messe. Le chant rejoint ici la liturgie céleste, avec cette proclamation de la sainteté de Dieu que l'on chante trois fois d'ailleurs. Et Esquèche va donner à ce texte une dimension véritablement monumentale. Alors l'écriture à deux chœurs permet de créer un dialogue dans l'espace déjà, et on a presque l'impression que la musique se déplace autour de l'auditeur. Et si on a l'oreille fine, je vous parlais de Duruflé il y a quelques secondes, il y a dès le début de ce Sanctus des réminiscences qui évoquent le Sanctus du Requiem de Maurice Duruflé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce rapprochement se fait de manière assez évidente lorsque on sait que Thierry Esquèche était titulaire de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris au moment où cette messe a été créée. Et c'est précisément dans cette église que Duruflé avait lui-même été organiste titulaire pendant une grande partie de sa vie. Comme si finalement, à travers Esquèche, une grande tradition française de l'orgue et de la musique sacrée continuait de se transmettre. Puis ensuite, on a deux grandes explosions dans ce Sanctus, les deux Hosanna. Et là, on quitte le monde d'une sorte de méditation pour entrer dans celui de la célébration. Les voix, vous allez l'entendre, s'élancent, triomphales, festives. Les deux chœurs se répondent et l'orgue devient presque orchestral. C'est un véritable triomphe vocal qui explose, mais un triomphe contemporain, parce que vous allez l'entendre, Thierry Esquèche ne cherche jamais à imiter la musique du passé. Il la fait résonner dans notre présent, et c'est ce que j'aime particulièrement dans sa musique. Alors pour terminer, point d'orgue aujourd'hui, voici le Sanctus de la messe romane de Thierry Esquèche. Le chœur Dulci Jubilo est ici dirigé par Christopher Gibert, et Thomas Hospital est au grand orgue de l'église Saint-Eustache, dont il est par ailleurs le titulaire. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Point d'Orgue. Merci à tous de votre fidélité à notre émission. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux chefs-d'œuvre. À très bientôt sur Point d'Orgue.